dans ces expressions de l'évangile de saint Marc, où Jésus fait entendre un sourd et parler ce muet, en lui disant « Ephata, ouvre-toi » en araméen, « ouvre-toi ». Ouvre-toi à la relation avec Dieu, avec les autres. Dans cet épisode, on a des signes qui ne trompent pas. Pour les Juifs, ces signes étaient... Ils comprenaient ces codes. Quand Jésus pose un doigt dans les oreilles, quand il met de sa salive sur la langue, on se dit, c'est quoi ? Ces méthodes, quand il dit « Ephata » et quand les témoins disent « Ah, il a bien fait toutes choses » et il fait parler les muets, ça c'est le cas, il fait entendre les sourds. En fait, même les témoins utilisent des verbes qui se retrouvent dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, « Il a bien fait » toute chose, Bereshit bara a Elohim, au commencement Dieu par sa parole fit, réalisa le ciel et la terre, c'est la création, c'est le verbe de la création. Et quand il utilise le doigt, c'est il écrit la Torah sur chaque personne qu'il crée, il l'écrit avec son doigt, c'est le doigt qui fait entendre la Torah. Et quand il pose de sa salive, on se rappelle la création du glébeu. Adam, ça veut dire glébeu. Ça veut dire qu'il le prend de la glèbe avec la pluie du jour et il façonne la boue, le boueux, pour en faire un glébeu. Et Adam, en hébreu, ça veut dire le glébeu. Et le potier est en train de façonner son œuvre. Si c'est pas fini. Et donc Jésus se fait un peu coopérateur du potier et il essaye de parachever la création. Ce n'est pas fini. Donc il touche les créatures pour les parfaire. C'est un langage de la création. Les Juifs comprenaient. Ils savaient, les Juifs en étaient convaincus, mais les musulmans aussi. Les premiers chrétiens aussi, et puis ça s'est perdu un peu, qu'au commencement de tout, il y a la parole qui façonne. Il y a la parole qui façonne. Hier, je lisais le témoignage de Shaïna Barré. C'est la fille d'un mollah chiite qui découvre le verbe, parce qu'elle est habituée à ce langage chez les musulmans, la parole. Mais elle, à un certain moment, elle se sent habitée par le Verbe qui est le Christ. Et elle essaye de se libérer de ça, parce que ça l'obligerait à passer d'une affiliation religieuse à une autre, avec une rupture familiale. Et elle dit « Je résiste » et « Je dis non ». D'autant plus que les acteurs de la pastorale de la paroisse dans laquelle elle voudrait demander le baptême sont assez exigeants et lui demande une rupture avec son histoire, et elle perçoit que le Christ ne lui demande pas ça. Enfin, c'est très intéressant, je vous donnerai son témoignage un jour. Mais les peuples sémites qui sont habitués à vivre de la parole et qui sont convaincus que la parole est à l'œuvre dans l'aujourd'hui, que Dieu parle aujourd'hui, Dieu parle aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'il parle ? C'était la grande question du peuple juif, 1000 ans avant Jésus-Christ déjà. Comment est-ce qu'il parle ? Et la première lecture nous dit, les pauvres attendaient la parole de Dieu. Et ils se disaient, mais Dieu ne parle plus. Et quand il vient avec sa justice et sa miséricorde, alors ils en font une lecture, c'est la revanche de Dieu, il est vivant, il est là. Et ils se réjouissent et les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles, comme hier à ces 6 foot, même les aveugles réussissent à jouer au foot. Tout ça parce qu'il y a l'œuvre de la parole qui est entendue. Mais comment est-ce qu'il discernait la parole dans la vie quotidienne? Avant qu'elle ne devienne parole écrite, c'était une parole orale. Alors ils se voyaient, ils se rencontraient et ils échangeaient pour discerner. Aujourd'hui, dans notre vie, comment Dieu nous parle? Et ils appliquaient 13 mesures de discernement, traditionnellement 13 mesures, qui se trouvent en Ézéchiel 34, 6, 7. Les 13 mesures de Rachamim, de Chesed, les 13 mesures de miséricorde. Ils essayaient de voir comment, dans l'articulation justice et miséricorde, par ces deux critères, comment Dieu se manifestait dans la vie. Et après, ils ont écrit cette parole qui est devenue ce que nous avons. Mais c'est une parole écrite qui nous permet de nous ressourcer nous-mêmes à une parole vivante, à une parole partagée, à une parole dialogique, pour discerner dans notre vie aujourd'hui comment Dieu nous parle aujourd'hui. On a les vibrations du cosmos, ça les physiciens savent la détecter. Mais il y a aussi les vibrations de la parole de Dieu en amont. Comment détecter, comment déchiffrer, comment décoder les vibrations de la parole de Dieu dans l'émotion, la motion, les mouvements de la vie quotidienne? Les Juifs étaient habitués, mais ce n'était pas facile de s'y tenir, de se tenir au Verbe. On le voit, ils reçoivent Jésus, des communautés chrétiennes se créent, et puis, en fait, Saint Jacques, de la deuxième lecture, dit, en fait, vous ne vous en tenez pas à la parole. Ah bon ? Ben oui, dans vos communautés, il y a des riches et des pauvres. Dès que quelqu'un d'important arrive, que ce soit parce que c'est un notable de la ville, ou bien parce qu'il est riche, vous lui déroulez un tapis rouge. Quand un pauvre arrive dans la communauté, vous l'ignorez, vous ne le voyez même pas, vous ne lui prêtez pas suffisamment d'attention. Alors Saint Jacques dit, mais par quel critère hein, vous vivez la parole de Dieu? Par quel critère vous l'écoutez? En fait, votre attitude montre que vous n'êtes pas en écoute, parce que les vibrations de la parole de Dieu, si vous les écoutiez, vous comprendriez qu'elles vous feraient donner la priorité de votre attention aux pauvres qui entrent dans la communauté. Donc c'est pas l'écoute d'une parole écrite d'abord, c'est d'abord l'écoute d'une parole vibrante, d'une parole en acte, par un dialogue de discernement. C'est ça, écouter la parole. Et Jésus, là, eh bien, c'est même en territoire païen, il montre que même un païen peut s'ouvrir à cette écoute. Alors que les foules attendent un miracle grandiloquent, les foules, il le prend à part et il l'ouvre à la parole. Espérons que nous aussi, aujourd'hui, par cette étape eucharistique, nous puissions nous aussi nous ouvrir à cette parole vivante qui vient nous toucher, toucher nos sens par la chair du Christ. Nous ne sentirons peut-être pas le doigt dans les oreilles, ni la salive sur la langue, mais nous percevrons le corps du Christ tout entier, ce corps avec ses doigts, avec sa salive, qui vient toucher notre corps pour le transformer. Que cette réception de l'Eucharistie nous aide à entrer davantage dans le mouvement de la parole, dans les vibrations de la parole, pour écouter davantage et plus en profondeur, discerner davantage l'œuvre de Dieu dans notre vie et pouvoir ensuite la dire.